Bonjour, je suis Laurence Deschamps-Laporte, professeure en sciences politiques, directrice scientifique du CIRIUM à l'Université de Montréal.
Et moi, c'est Laura Gilipero, chroniqueuse aux affaires internationales au journal La Presse.
Bienvenue à Sans escale, notre balado sur les affaires internationales.
Pour les passionnés du monde.
Bienvenue à notre 28e épisode de Sans escale. Ça va faire près de 3 ans qu'on fait ce balado ensemble, Laura Julie, et on veut clore cette aventure qui vivra peut-être sous d'autres formes dans le futur, mais pour l'instant, qui prendra fin sous la forme actuelle avec 2 épisodes très spéciaux. Où est-ce qu'on est en conversation l'une avec l'autre?
Exactement. On a choisi un lieu spécial pour le faire. On est au marché Bon Secours, dans la grande salle de bal. Quand on regarde le marché Bon Secours jusqu'à autour, on est en plein cœur du Vieux-Montréal, presque au début du boulevard Saint-Laurent. Mais derrière nous, donc c'est la base de Montréal. Derrière nous, c'est le site d'Expo 67, là où Montréal s'est ouvert sur le monde. Expo 67 où le monde découvrait le Québec découvrait le monde, et c'est aussi l'année où on a ouvert complètement le système d'immigration et fait tomber, en fait, tout ce qui était discriminatoire dans notre système pour établir le système de points pour que les gens puissent venir, qu'ils soient d'Asie, d'Afrique ou d'ailleurs, alors qu'avant, notre immigration était complètement européenne ou à peu près. Donc, c'est un beau point de convergence qu'on a choisi pour ces 2 derniers épisodes-là. Puis pour avoir encore un autre moment de plaisir, parce que, en tout cas pour moi, Sans escale, depuis le début, c'est vraiment un moment d'échange particulier. On prend une petite pause dans nos vies, disons-le, pas mal occupées, pour se parler de ce qu'on aime, mais aussi pour se retrouver derrière le micro et se connecter une à l'autre et à nos 2 univers. Donc, c'est comme un privilège de finir ça comme ça aujourd'hui.
Écoute, Laura Julie, on se retrouve dans ce qu'on a défini, ce qu'on a pensé comme être vraiment le point le plus international de Montréal, tu l'as dit, mais la fondation de Montréal, elle s'explique par son port aussi. Pour les peuples autochtones aussi, et bien avant ça, c'est la terre de rencontre. C'est l'île qui est entre tant d'étendues d'eau, de courants d'eau, qui explique que tant de peuples autochtones se sont rencontrés ici. On se sont établis ici, ont partagé ces lieux.
Oui, puis c'est aussi le lieu où la Grande Paix de Montréal a été signée. À l'époque, mon ancêtre, Nicolas Perrault, était le traducteur, en fait, officiel de 13 des chefs autochtones qui étaient ici. Il parlait 13 langues autochtones. Mais c'est vrai que c'était grâce à cette paix-là que Montréal a pu ensuite s'épanouir, parce que ça se passait pas très bien, les débuts de Montréal, parce que justement, ça avait été fait sans l'accord des gens qui occupaient le territoire depuis longtemps.
Alors, c'est dans ce lieu de confluence, un peu plus loin de la montagne du Mont-Royal habituelle où est-ce qu'on se rencontre à l'Université de Montréal, qu'on a choisi d'enregistrer nos 2 derniers épisodes. Alors, merci d'être avec moi aussi ce matin, Laura Julie.
J'en suis ravie.
Coup de cœur et nos bons coups. Donc, toi et moi, Laura Julie, on a beaucoup d'expériences de terrain. On a aussi beaucoup d'expériences de ramener nos terrains ici, d'essayer d'y réfléchir avec nos communautés journalistiques, académiques, nos audiences de toutes sortes. Ton audience est beaucoup plus grande que la mienne, évidemment, mais on essaye de rendre l'international québécois. Puis le mettre dans d'autres mots. Alors, on va peut-être passer en revue nos épisodes, ce qu'on a fait ensemble, les conversations qu'on a eues avec nos invités, pour se rappeler des moments particulièrement marquants.
Oui. Commençons par nos bons coups.
Ah ouais, avec plaisir.
Alors toi, qu'est-ce qui retient ton attention de ce qu'on a fait, Laurence?
Alors, à chaque fois, Sans escale, ça a été un moment de découverte et de bonheur. Je pense à deux épisodes en particulier qui me viennent en tête. Il y a celui, l'année passée, en mai 2023, avec Mylène Coderre, qui était doctorante en rédaction au Cerium de l'Université d'Ottawa, qui nous a parlé de ses expériences de recherche et de ses travaux sur le Guatemala et sur vraiment... si on veut, le parcours des migrants du Guatemala et du Mexique, mais elle a beaucoup fait de terrain au Guatemala en particulier pour arriver dans nos fermes au Québec, puis pour nous nourrir au bout de la ligne. Alors ça, j'ai trouvé ça, ça illustrait une réalité qu'on connaît mal, puis dont on dépend complètement.
Oui, vraiment un peu le... On a un mot en journalisme, on parle de la glocalisation quand les nouvelles internationales sont locales aussi. Là. Donc ça, c'était un bon exemple. Moi, je dirais qu'un de mes coups de cœur, c'était ben, l'avenue de Louise Arbour, qui était venue nous voir et qui nous a parlé de droit international. C'est intéressant, puis elle nous avait parlé, elle a dit « Ah, oh, ben moi, l'avenir du droit international, je suis moins là-dedans, mais je peux vous parler de l'origine. » Mais finalement, ce qui m'a marqué de ce qu'elle nous a donné comme entrevue, c'était ce qu'elle disait en fait de la mutation du droit international, notamment par la nouvelle génération, où on va être moins dans les droits individuels, et de plus en plus dans les droits collectifs, donc notamment la question de l'environnement. Puis là, on le voit, il vient d'avoir, au moment où on se parle, là, on est en avril 2024, il vient d'avoir là, une décision au sujet de la Suisse.
Oui, j'ai vu avec le collectif éco-féministe.
Exactement, où donc la Suisse, on lui tape sur les doigts pour ne pas avoir assez défendu ou protégé l'environnement. Donc, c'est comme une nouvelle ère de droit international qui arrive. En même temps, on est en plein milieu du conflit dans la bande de Gaza, où là aussi, le droit international, le droit humanitaire, on en parle beaucoup, ça se passe pas très bien. Le fait qu'on est à la Cour internationale de justice avec une cause amenée par l'Afrique du Sud, carrément sur le génocide. Donc, c'est vraiment un mouvement, un moment très fort en droit international. Puis donc, cet épisode-là m'est revenu comme un de nos bons coups.
C'est impossible de pas être ébahi devant les paroles de Louise Arbour, qui est probablement... pour moi, en tout cas, la plus grande inspiration, à la fois pour une personne qui peut contribuer tant à sa société québécoise et canadienne, dans ses cours, dans ses institutions, mais aussi à l'international, puis de faire ce va-et-vient-là continuellement dans sa carrière, mais rester ouverte à la fois vers les communautés universitaires, vers les étudiants, puis garder cette espèce d'authenticité incroyable où est-ce que... on a vraiment un sentiment de vrai quand on l'entend et elle a vraiment l'opposé de la langue de bois. Donc, ses propos sont justes et sont tout à fait, c'est ça, tout à fait authentiques.
Lucide, c'est ça, exactement.
Lucide.
Ouais.
Louise Arbour, on est à l'université, on a toute une génération avec... beaucoup d'espoir de pouvoir contribuer à la formation de ce droit international. Est-ce que vous avez des conseils pour ces étudiants, ces étudiantes qui souhaitent continuer ce travail?
Je pense que le seul conseil que je leur donnerais, c'est ne vous laissez pas embarquer dans une orthodoxie juste parce que ça a de l'allure. Tu sais, ce qu'on a bâti après la Deuxième Guerre mondiale, en fait, toute l'infrastructure des droits de l'homme, c'est très attrayant. Mais je pense qu'il faut être très, très lucide et puis se dire, si ça ne livre pas, il va falloir avoir le courage de penser des choses, au moins d'être capable d'en parler sans justement être prisonnier. Il faut que tout soit parfait alors que dans la réalité, il n'y a rien qui marche. Mm. Alors, moi, je dirais aux étudiants, allez-y, là, ne perdez pas la foi, mais essayez de dépoussiérer un peu l'entreprise.
J'ai aussi, moi, été beaucoup marquée par l'épisode qu'on a fait avec Guillaume Lavallée lors de la première saison. C'était en avril 2022. C'était sur le journalisme international. Il revenait tout juste de Jérusalem, de son poste à l'agence France-Presse. Il parlait de cette relation symbiotique qu'il avait avec recherchistes, fixeurs, journalistes, entre... Israël, Gaza, Cisjordanie, puis aussi la communauté internationale, comment ils s'entraidaient en texte arabe, français, en hébreu. Puis j'ai beaucoup repensé à lui, puis repensé aux gens avec qui il travaillait probablement, qui sont sous les bombes en ce moment.
Ben, Guillaume et moi, on est co-administrateurs du Fonds québécois en journalisme international. Et Guillaume continue d'écrire sur ce qui se passe en Israël et dans les territoires palestiniens. J'ai un autre de mes amis aussi qui travaille pour Associated Press et qui, lui, a dû aller dans la bande de Gaza pour s'occuper, en fait, de ses collègues après que deux d'entre eux qui avaient été tués au début de la guerre. Donc, ouais, beaucoup de sympathie pour mes collègues, justement, qui ont passé beaucoup de temps sur ces terrains-là. Et Guillaume qui lâche pas, là, qui continue d'écrire sur la région, même s'il est à Montréal maintenant.
Puis, il y a tellement de liens entre les épisodes, il semble y avoir une fracture du droit international lorsqu'on voit que cette ligne rouge-là des journalistes s'est dissipée, puis on prend des journalistes pour cible, puis c'est particulièrement inquiétant.
Absolument.
Sujets qui sont venus nous chercher aux tripes.
Dans notre balado, c'est sûr qu'on est surtout là pour parler de contenu intellectuel ou politique, mais je dirais que c'est arrivé quand même souvent qu'on s'est fait prendre aux tripes par les sujets qu'on a couverts. Toi, qu'est-ce qui te revient en tête quand tu penses à ce qui est venu le plus faire vibrer ta corde sensible?
L'épisode avec Émilie Tran, qui était venue à l'été 2023. On avait enregistré ça en juin 2023, qui nous parlait de la Chine, professeur à Hong Kong. Un peu comme l'épisode avec Gilles Vernier, qu'on a enregistré tout récemment, au mois de mars 2024. Il y a des chercheurs qui ont des sujets qui deviennent de plus en plus sensibles politiquement, qui font un travail de recherche incroyable, où est-ce que la recherche peut devenir risquée, puis qui se tiennent et font leur devoir d'éducation, de formation, de recherche, puis d'éducation publique à travers des balados comme les nôtres. Et c'est cette dévotion-là alors la recherche, le rôle de chercheur devient une vocation, en fait. Et ça, je trouve ça particulièrement touchant.
Puis on le voit, là, on voit que la montée des autoritarismes dans le monde fait que les chercheurs, comme les journalistes, sont vraiment là, les canaries dans la mine, là. On a l'impression que les libertés académiques sont parmi les premières attaquées. On le voit aux États-Unis, mais on le voit ailleurs dans le monde. Justement, tu parlais de Gilles Vernier, d'Émilie Tran. J'ai comme l'impression que c'est il y a une vraie tendance en ce moment vers ça. Et comme tu dis, de continuer à faire avancer le savoir, même quand ça devient difficile, même quand parfois on peut être coupé de son terrain. On n'a plus le droit d'aller dans le pays qu'on couvre ou dans la spécialité qui nous intéresse. C'est vraiment inquiétant, puis c'est vrai que c'est touchant parce qu'il reste énormément d'amour. Moi-même, je suis une fan finie de la Russie, mais Je sais que ça va être à peu près impossible pour moi d'y retourner. Ça me brise le cœur, j'adore l'Iran, ça va être difficile d'y retourner. Aller en Chine travailler en ce moment, ça serait très difficile probablement d'avoir un visa. Il y a comme quelque chose, on est en train de... Nos zones de liberté, même pour travailler dans des pays considérés autoritaires, sont en train vraiment de rétrécir. Puis c'est inquiétant pour tout le monde. Donc, puis c'est vrai que ça vient me chercher, moi aussi.
Puis les chercheurs sur le terrain qui ont juste ce pays-là, hein, qui ont juste ce passeport-là, puis qui débattent au quotidien le risque pour leur famille de faire leur travail, il n'y a pas de bonne situation pour eux.
Moi, quand je pense à ce qui est venu me chercher au trip, je me rappelle de l'épisode qu'on a fait sur les violences sexuelles au Congo avec Sandra Bashengazi. Qui arrivait tout juste du Congo puis qui est venue nous raconter un peu ce qu'elle avait vu, les gens qu'elle a rencontrés. Elle avait préparé un documentaire. Et je me rappelle un moment donné qu'on avait eu pas mal des trémolos dans la voix. Puis cet épisode-là est d'autant plus d'actualité aujourd'hui où le conflit dans les Kivu a repris de plus belle. Donc, on sait qu'il se passe des choses terribles et presque personne n'en parle. Donc, en tout cas, je repense à cet épisode-là. et de tout le contenu et ce que ça veut dire à chaque fois pour la population civile, mais les femmes en particulier.
Puis à la mi-avril 2024, on a eu la commémoration des 30 ans du génocide au Rwanda, avec des témoignages particulièrement percutants d'un autre grand de l'international, Roméo Dallaire, qui a tout fait pour essayer d'arrêter ce génocide. Puis on voit que les armes de guerre, comme le viol, qui ont contribué à ce génocide-là, sont de plus en plus répandues, puis il y a très peu pour nous rassurer. Alors, il y avait de mon côté aussi, qui reste tristement d'actualité aujourd'hui, alors qu'on se parle à la mi-avril, l'épisode avec Marie-Josard sur Haïti, qu'on a enregistré en novembre 2023, alors qu'il y avait des premières discussions ou des votes à l'ONU sur la possibilité du déploiement d'une force de maintien de la paix kényane. Puis on voulait faire le retour sur Haïti avec Marie-Joëlle et ses expériences de maintien de la paix. Marie-Joëlle nous a parlé avec une grande lucidité, avec beaucoup d'espoir pour le peuple haïtien, mais aussi un réalisme quant à la possibilité d'utiliser l'ONU comme moyen principal pour rétablir la stabilité.
Je pense que le croisement, encore une fois, entre un niveau d'éducation élevé, le fait que les femmes sont visibles dans l'espace public, malgré le fait qu'on essaie de les cacher à tous les niveaux, et surtout, évidemment, le corps aussi qu'on tente de cacher, évidemment, elles résistent. Alors, vous avez plusieurs éléments comme ça dans ce nouveau mouvement. Enfin, un nouveau mouvement, en tout cas, moi, j'y vois plutôt une continuité. Mais c'est vrai que les éléments qui ressortent beaucoup, c'est la jeunesse iranienne, c'est la présence des femmes. Et puis, je dirais qu'aujourd'hui, ce qui est très, très clair et ce qui était peut-être un peu moins clair à travers les autres mouvements, parce qu'il y avait différents types de revendications, il y a une revendication qui est très claire et très directe, c'est qu'on ne veut plus du système actuel. On ne veut plus de la République islamique d'Iran. Et on commence en fait à s'attaquer maintenant à l'ensemble des symboles qui représentent l'État iranien aujourd'hui.
Moi aussi, je garde en tête le super bel épisode. Ça avait commencé une de nos saisons sur l'Iran, l'art de la résistance, qu'on a fait en novembre 2022 avec Annie Ziaé. Et je me rappelle toute la beauté de son propos. On parlait de tout le mouvement « Femmes, vie, liberté ». Qui avait commencé en septembre, à peu près deux mois avant. Mais toute la beauté du propos et aussi le lien systériel entre la diaspora et les femmes qui sont en Iran, ce désir-là d'être en appui. Puis depuis ce temps-là, on a arrêté pas mal de parler de ce mouvement-là, mais ça continue. Je pense à Narges Mohammadi, à qui on a donné le prix Nobel de la paix, puis qui, même si elle est dans la pire prison à peu près du monde, continue de se battre. Elle va fêter ses 50 ans là, en prison ces jours-ci. Donc, on pense à elle.
Une espèce de force calme chez ces femmes iraniennes qui se battent. Je l'ai senti incarnée dans la personnalité puis les propos de Hanieh aussi.
Et tu avais beaucoup connecté aussi avec son côté artistique.
Mais je pense qu'il y a ça dans la culture iranienne, que lorsqu'on commence à la connaître, on ne peut pas dissocier l'action politique, les mobilisations sociales, la poésie, des chants. Aussi, de la poésie d'être en Iran. Tellement dans des situations tellement difficiles, il y a tellement de beauté entre les humains que, voilà, ça, on n'a pas le choix de choisir l'espoir.
Oui.
Les fois où on aurait voulu ne pas avoir raison.
Donc, des fois, Laura Julie, on sent des bruits de choses qui sont en ébullition, puis on se demande ce qui se passe, on fait des épisodes. Puis là, il y a certains épisodes qu'on y pense, puis on se dit, j'aurais préféré qu'on n'ait pas raison d'avoir ces invités-là, d'avoir eu ces conversations-là, parce que malheureusement, ça s'est développé de manière peu encourageante.
Absolument. Moi, je pense notamment à l'épisode qu'on avait fait sur le Sahel qui est un sujet compliqué. Donc, on a fait ça en mars 2023. Et juste après l'épisode, il y a eu le coup d'État au Niger. Après, il y a
avec Adib Ben Chérif, c'est ça?
Exactement. Il y a eu le coup d'État au Gabon. En tout cas, le renversement du gouvernement, je ne sais plus comment l'appeler. Mais on voit là, d'une fois à l'autre, on voit ce qui se passe au Mali ces jours-ci où il y a une immense répression politique. Donc oui, là-dedans, on aurait aimé ça de ne pas avoir raison. On avait appelé ça la parfaite tempête, puis malheureusement, c'est ça qui se passe.
Qu'est-ce qu'on entend par Sahel? Juste le concept là, du Sahel.
Oui, c'est un concept maintenant qu'on voit dans les médias un peu à droite à gauche, mais qui vient de l'arabe. Sahel veut dire rivage. Rivage, bordure, un peu pour différencier deux espaces. L'espace de l'Afrique du Nord et puis Beled el-Soudan, le pays des Noirs, dans la traduction littérale des marchands arabes, des premiers géographes arabes, mettons. Donc on est quand même dans un imaginaire un peu moyenâgeux, ça remonte à quelques siècles. Mais le Sahel est intéressant parce que cette bande sous le désert du Sahara, qui est en quelque sorte un espace entre l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest, est un carrefour civilisationnel. Il y a une rencontre de plein de communautés, plein d'empires qui se succèdent avec des dominations de différentes communautés, des rivalités, mais aussi des alliances, des mariages. Donc c'est un endroit culturellement extrêmement riche d'abord.
De mon côté, en novembre 2023, on a fait un épisode sur l'immigration avec Catherine Hardet. Et on compare les modèles canadiens, européens, mais on a parlé, entre autres, aussi de la situation avec les visas mexicains. On sentait que ça allait peut-être être... que cette situation-là, que les visas mexicains au Canada allaient peut-être être réimposés. J'ai senti qu'il y avait un petit triangle de différence d'opinion entre nous trois.
Tout à fait correct, c'est ça, l'idée d'avoir...
C'est ça, le but, absolument. Et moi, maintenant que cette décision-là a été prise, pour, entre autres parce qu'elle avait été demandée par les États-Unis. Moi, j'ai une petite inquiétude diplomatique par rapport à la capacité d'avoir une diplomatie Canada-Mexique forte avec le potentiel d'un retour de Trump. Je pense qu'il faut aussi y penser, sachant qu'il y a des élections de toutes parts qui s'en viennent, puis les relations d'Amérique du Nord sont hyper importantes. Ça m'inquiète un peu sur notre propre continent de s'assurer qu'on soit capable d'avoir des dialogues ouverts. Parce que là, il y a beaucoup de tensions dans cette relation en ce moment.
Oui, absolument. Ça, c'est vrai. Mais en même temps, c'est vrai qu'il faut dire qu'en ce moment, le système d'immigration canadien, son intégrité est questionnée par une bonne partie de la population et des politiciens, à tort ou à raison des fois, mais que... particulièrement ça, c'était problématique parce que c'était l'utilisation du système d'asile pour souvent des demandes qui ne l'étaient pas. Ça devenait dur à gérer et ça faisait que pour beaucoup de gens qui arrivent d'endroits où il y a beaucoup de demandes légitimes, ça engorge le système. Donc, c'est toujours... il y a toujours, je pense que c'est l'équilibre. Toi comme moi, on est très pro-immigration toutes les deux, mais il y a aussi, moi je pense que l'envers du système d'immigration, c'est justement de garder un peu une intégrité du système et de montrer que c'est juste pour tout le monde. Et ça, je pense que c'est le plus gros défi qu'on a en ce moment. Et ça oblige à prendre des décisions difficiles parfois. Mais bon, on verra ce que ça donnera. Est-ce que ça sera temporaire, ces visas-là? Est-ce que c'est quelque chose qui est là pour rester? Va falloir voir. C'est vrai qu'il y a eu des histoires journalistiques qui étaient un peu inquiétantes là, sur la mainmise de réseaux criminels sur les visas, sur la venue au Canada. Donc ça, c'est sûr que... Est-ce que c'était juste anecdotique? Est-ce que c'était important? Je pense que c'est plus là la question.
Puis normalement, les canaux pour chercheurs, journalistes, main-d'œuvre devraient être préservés de manière pas trop lourde parce que, par exemple, moi, c'est ça qui nous intéresse dans un endroit comme l'université, de savoir qu'on peut amener des chercheurs sans attendre 6 mois comme c'est dans le cas pour bien des pays, là. quand des fois ils n'ont pas de réponse. Donc, au moins avec les chercheurs mexicains, on savait qu'on pouvait savoir d'une part et d'autre. Alors, on espère que ces canaux-là vont être préservés.
Oui, c'est ça. Donc, si on impose des visas, par contre, il faut qu'on soit capable d'en livrer des visas. Voilà. Je pense que c'est ça la question. Moi, dans les trucs, j'aurais aimé ça qu'on se trompe aussi. La polarisation et le déclin démocratique en Amérique latine. C'est pas juste des mauvaises nouvelles en Amérique latine. On avait fait ça le 15 juin 2022.
Avec Françoise Montembeau.
Exactement. Et depuis, bon, ben, le Brésil, quand même, a réussi à avoir une transition démocratique, même si ça a été difficile. On a vu, par contre, l'élection en Argentine et l'élection d'un drôle de personnage qu'on a de la misère à catégoriser, là, Milei. On ne sait pas encore ce qui va se passer, mais disons que tout le continent est un petit peu déstabilisé. Et je rencontrais juste cette semaine le juge en chef de la Cour suprême du Brésil, Luis Roberto Barroso. Et il me disait, un des gros enjeux qu'on a aussi en ce moment dans tout le continent, c'est la montée du crime organisé. Donc, ça, c'est quelque chose qui inquiète beaucoup, au-delà de la polarisation.
Mais ça, c'est tous azimuts, vraiment, jusqu'à l'Amérique du Nord. C'est une dynamique qui est aussi très claire en termes de changement chez nous, au Canada aussi.
Absolument.
Les sujets qu'on aurait abordés si on avait continué.
Donc, on met sur pause ou on met fin à notre collaboration avec le balado après 3 belles années. Mais c'est sûr qu'il y aurait encore plein de sujets qu'on aurait pu aborder, Laurence. Toi, qu'est-ce qui te vient en tête? Si on continuait, on ferait quoi?
La guerre à Gaza et son impact sur la géopolitique régionale et mondiale. Pendant longtemps, ce conflit a été conceptualisé comme étant un conflit israélo-arabe. Dans l'histoire, on n'en parle plus comme ça du tout. Même avant le 7 octobre, les diplomaties au Moyen-Orient avaient beaucoup changé. Et ça serait intéressant d'analyser l'impact sur les diplomaties au Moyen-Orient, puis qu'est-ce que ça change dans le monde aussi. C'est un sujet qui m'intéresse toujours. Et puis je dirais l'autre sujet qu'on pourrait couvrir, c'est l'isolationnisme américain. Certes, on est sous une présidence démocrate encore, mais il y a des choses qui n'ont pas changé. Le retour au Buy American, les politiques protectionnistes, le retrait de l'ONU, c'est une nouvelle donne mondiale qui affecte beaucoup aussi notre place conjointe, parce que le Canada et les États-Unis font beaucoup ensemble dans le monde. Puis c'est de prendre un recul à savoir que l'ère Obama s'est terminée et ne reviendra jamais. C'était la fin d'un cycle historique.
Il y a beaucoup d'auteurs, d'autrices dans la littérature qui parlent d'une nouvelle guerre froide, d'un monde qui est en train de se séparer en deux camps, notamment bon, l'Occident, les pays qui appuient les États-Unis et ce qui est fait en Ukraine en ce moment. Mais c'est clair que, comme vous le dites, il y a d'autres pays qui sont plutôt à l'écoute de ce que dit la Chine en ce moment à l'international, de ce que dit la Russie aussi. Et la guerre en Ukraine, c'est une guerre, bon, c'est un affrontement militaire, mais c'est aussi une guerre informationnelle, une guerre d'idées, où les deux grands, la Russie, les États-Unis, essaient de convaincre les autres pays à l'international que c'est leur vision des choses qui devrait s'imposer.
Non, mais d'ailleurs, notre épisode avec Frédéric Gagnon sur les États-Unis était un de mes préférés. Donc, ça vaut la peine de le réécouter, je pense, parce qu'on a abordé ces questions-là. Et oui, je suis d'accord avec toi que c'est très intéressant. Moi, je pense notamment aussi à l'intelligence artificielle. C'est le mot, hein, ces temps-ci, c'est le thème. Mais en relations internationales, ça va vite, l'intelligence artificielle. Puis je dois avouer que je ne suis pas. Donc, ça aurait été très utile de recevoir quelqu'un, puisqu'on a plein d'experts à Montréal qui auraient pu nous parler de l'intelligence artificielle, notamment l'utilisation pour les droits humains. Là, on voit en ce moment, on a su que dans la guerre Israël, dans la bande de Gaza, il y a de l'utilisation de l'intelligence artificielle militaire. C'est toutes des questions et ça soulève des questions. Donc ça aurait été vraiment un bon sujet.
Puis son utilisation dans les armes, puis aussi le fait que nos outils nationaux et internationaux sur le commerce des armes ne sont pas adaptés à ces technologies.
Mmh. J'aurais pensé aussi peut-être à un épisode, puis ça va un peu en lien avec ce que tu disais sur l'isolationnisme américain, mais un peu sur la perte d'influence du monde occidental qui est accélérée par la pandémie.
Mmh.
On voit là, vraiment, en fait, moi, c'est une de mes obsessions, en fait, la montée là, de l'espèce de bloc d'influence et de la Russie et de la Chine, où on dirait que plus ça va, plus ces deux mondes-là ne se parlent plus. Là. Il y a comme, on est en train de se fermer chacun dans nos sphères. Donc, ça aurait été intéressant d'aborder ce sujet-là aussi.
Oui, puis à l'intérieur de ça, la rivalité Chine-Inde, puis comment ça impacte la région, parce que nous, on les voit comme tous ceux qui sont en train de s'allier avec les non-occidentaux, mais il y a plein de jeux de rivalité là-dedans aussi qui sont très intéressants, même ce que la Turquie fait en Afrique, par exemple, aussi.
Ouais. Puis j'aurais aimé ça qu'on revienne aussi sur la question du droit international, notamment, ça veut dire quoi, la crise du droit humanitaire, le fait que les travailleurs humanitaires se font tuer en grand nombre, le fait que les journalistes se font tuer en grand nombre en ce moment, le fait que le droit de la guerre semble remis en question beaucoup dans tous les conflits qu'on a vus récemment, donc celui en Ukraine, celui au Proche-Orient, celui au Soudan, celui au Congo. On dirait que comme on est dans une nouvelle phase des conflits et des choses qu'on prenait un peu pour acquis, certaines petites protections à l'intérieur des conflits qui sont toujours terribles, semble tomber rapidement. Donc, ça aurait été intéressant d'en parler aussi.
Puis aussi les zones de résistance, comme on le voit, où sont les tentatives de sauver ce qui reste, parce que faut quand même essayer.
Puis tu te rappelles quand on a commencé le balado, on essayait d'y aller un peu par la porte de la culture populaire. Un de mes épisodes préférés, c'était celui qu'on a fait sur Ethos, la série turque, qu'on avait toutes les deux beaucoup aimé, puis on avait fait venir Vahid Yousefzai, qui était venu nous en parler. Puis je me demandais qu'est-ce qu'on ferait comme sujet comme ça, culturel, si on continuait.
J'ai tellement aimé le film Nomadland sur le nomadisme post-industriel dans le Rust Belt, entre autres américain. Et ces dynamiques-là des populations aux États-Unis qui vivent comme ça, là, d'une job saisonnière chez Amazon à une autre, à travers ce film-là, on en parle peu et c'est si proche de chez nous.
Absolument. Moi, j'aurais pensé, notamment, on aurait eu beaucoup de fun, je pense, à faire quelque chose sur The Diplomat, la série de Netflix, où cette diplomate qui devient presque une espèce de super-héroïne. Mais pour parler de la diplomatie puis de son avenir, du côté changeant de la diplomatie dans un monde de plus en plus polarisé, je pense que ça aurait pu être intéressant qu'on regarde ça aussi.
Puis finalement, j'ai récemment vu le film basé sur un des livres de Kim Thuy qui raconte un peu son parcours. Puis on
Rue.
Voit, hein?
Rue.
Rue, absolument. Puis on voit un Québec. Ce qui m'a touchée dans ce film, c'est qu'on voit un Québec qui de banlieue. OK, où est-ce que la vie est simple, mais les cœurs sont grands pour accueillir les réfugiés du Vietnam. Puis je me suis dit, est-ce qu'on pourrait retourner à ça culturellement ou est-ce que c'était juste un instinct humain d'aide? Puis c'était tellement maladroit dans certains cas, mais c'était tellement beau.
Mais on l'a refait. Moi, je pense que j'ai beaucoup écrit là-dessus, justement, l'accueil de la communauté vietnamienne. Qui était un immense succès aussi pour l'intégration à long terme. La communauté vietnamienne au Québec, parce qu'il y a eu des études là-dessus, a eu un plus grand succès socio-économique que n'importe quelle autre communauté incroyable. Vietnamienne à travers l'Amérique du Nord.
Alors,
donc, ça a eu un impact, le fait que les familles de Granby, de Sherbrooke et tout ça ont accueilli des gens chez eux. Et là, on l'a vu récemment, on l'a vu avec les Syriens, on l'a vu avec les Ukrainiens. Ça existe encore. Il y a encore plein de gens. Tu sais, tout ce qui est le parrainage privé des réfugiés, on est les grands champions de ça.
C'est vrai, on l'a vu avec la Syrie, l'Ukraine,
ouais. Ouais, et moi, j'ai souvent interviewé des gens qui ont décidé de faire ça sans savoir qui étaient les gens qu'ils allaient accueillir. Puis je trouve ça hallucinant. Puis oui, je pense qu'il y a vraiment un besoin de plus de programmes de jumelage où tu ne fais pas nécessairement venir les gens, mais une fois qu'ils sont ici, tu deviens comme leur famille d'accueil.
Mais moi, je l'ai fait à Ottawa.
Il y a plein de monde qui a envie de faire ça, mais le programme en ce moment au Québec, c'est difficile, là. Ça se passe pas aussi bien, alors que je pense qu'il y a beaucoup de désir de faire ça.
Quand je vivais à Ottawa, j'ai vécu quelque chose comme ça, puis toi, t'as plein d'expériences aussi, où est-ce que des organismes pour des réfugiés qui sont accueillis par le gouvernement, donc pas par des familles, des fois des plus grandes familles, plus complexes, ils ont aussi une famille associée, si on veut. Puis on ne doit pas répondre, on n'a pas besoin d'un même engagement financier, mais on est là pour eux. Puis c'est une expérience très belle. C'est vrai que ça existe encore, puis il faut se le rappeler, puis il faut continuer à s'engager là-dedans.
Oui, absolument. Écoute, on pourrait continuer à parler pendant des heures. On a vraiment vécu des belles affaires ensemble, beaucoup de beaux sujets. Puis je pense que ça va continuer à nourrir nos discussions de cuisine, hein, Laurence?
Absolument. Puis moi, j'ai espoir que Sans Escale va continuer à vivre. Puis nous, on aura des projets de toutes sortes qui émergeront autrement.
Super.
Merci d'avoir été des nôtres pour ce nouvel épisode de Sans Escale, un balado du Cérium en collaboration avec la Faculté des arts et des sciences ainsi que UDM International. Merci à notre équipe composée de Caroline Delamotte à la recherche et à la réalisation. Un merci tout particulier à Éric Coulombe et son équipe des événements du Marché Bon Secours qui nous ont très généreusement accueillis ce matin dans le Vieux-Port. Merci à Émir Chouchane, conseiller à la Direction des technologies des bibliothèques de l'Université de Montréal et à Robin Couch, directeur de la programmation à CISM. Merci à Mathieu Arsenault pour la captation de ces épisodes de Sans Escale. Alors, Laura Julie, il nous reste un épisode. On y va?
On y va! Ça te va-tu? C'est intéressant, Caro?
C'est très bien. Moi, si je dis rien, c'est que tu vas bien.